Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Trillet-Lenoir, pardon, qui est députée européenne, et Guillaume Bucher, qui est en ce moment chef de service du vaccinodrome de l'hôpital de Cayenne, et qui a une connaissance tout à fait particulière des questions européennes. Et il nous a semblé extrêmement important avec Younes, avec Jérémy, avec Romain, dire avec l'équipe. De Nil, de mettre justement en parallèle les propos de Véronique et les propos de Guillaume, sachant que notre volonté ici, c'est de mieux comprendre les politiques européennes, ce qui va être la possibilité qui nous est offerte par Véronique, nous expliquer à mi-mandat après à peu près tout ce qui a été fait, et ça fait partie des choses importantes. Et puis un décryptage par Guillaume ensuite, et on pourra prendre quelques questions. Voilà, Véronique, vraiment merci déjà de votre amitié et de votre fidélité, et puis du soutien que vous avez toujours apporté à ce think tank. Je vous laisse tout de suite la parole.
Merci beaucoup, Olivier. À nouveau, un grand salut à Guillaume qui s'est levé tôt ou pas couché pour nous. Et puis, un très grand bonjour à tous ceux qui sont derrière l'écran et que je ne vois pas, mais que je connais pour un bon nombre d'entre eux. Et un bonjour tout particulier aux jeunes du think tank pour leur dire que même si je ne réagis pas toujours et si je ne suis pas toujours présente physiquement, je les suis très très régulièrement sur leur fil Twitter où je suis toujours enchantée de voir leur enthousiasme et leur dynamisme pour l'Europe de la santé. Alors, je vais essayer de faire court, concis et percutant. Ce bilan de mi-mandat, il est marqué bien entendu par les mesures de réaction à la crise sanitaire, mais je voudrais quand même vous donner deux, trois aspects de ce que nous avions commencé avant la crise sanitaire et puis bien évidemment vous dire ce que j'ai l'ambition de faire et de conduire pour la suite du mandat. Alors, la crise sanitaire a généré une prise de conscience formidable dans les esprits, en particulier au Parlement européen, où j'ai l'habitude de dire qu'en début de mandat, je siégeais dans des plénières entre 23h et minuit avec le 18e vice-président du Parlement et une poignée de 5 ou 6 eurodéputés qui se passionnaient pour la santé. Et puis est arrivée la crise du Covid, qui reste évidemment une tragédie dont on se serait bien passé, mais qui a été, disons-le, l'opportunité pour les politiques et pour les institutions européennes de prendre la dimension de l'importance de la santé dans toutes les politiques. Et je sais que nous sommes nombreux à être convaincus. Première étape, le budget. Alors que le 21 juillet 2020, nous nous sommes réveillés à 5 heures du matin avec les résultats du plan de relance européen. Endettement commun de 750 milliards à la suite d'une crise sanitaire, avec la douche froide absolue, la ligne santé du plan de relance était à zéro. Nous nous sommes battus auprès et aux côtés de la Commission européenne pour arriver à obtenir finalement que ce budget existe. Et c'est une grande victoire parce que le budget pluriannuel final pour la période 2021-2027 consacrée à la santé sera de un peu plus de 5 milliards d'euros, ce qui n'est pas beaucoup pour le budget européen, mais ce qui est plus de 10 fois plus que les budgets santé antérieurs. Qu'allons-nous faire avec ça? Eh bien, nous avons négocié avec les groupes politiques sans clivage majeur et nous nous sommes mis d'accord sur des grandes priorités. Et je crois savoir que vous les partagez, la lutte contre les inégalités de santé, la promotion de la santé et la prévention des maladies, en particulier chroniques, la défense, la défense d'une vision globale de la santé et du concept de santé dans toutes les politiques, la lutte contre les maladies chroniques, en particulier le cancer, excusez-moi, contre les maladies rares et un mouvement fort pour l'Europe du médicament. Nous avons également tous plaidé pour que les associations et les ONG soient très présents dans ce budget. Ce budget, bien évidemment, va se décliner de manière beaucoup plus précise et structurée, mais voici les grandes lignes. Excusez ma voix, le parlementaire parle et comme il parle trop, il y laisse sa voix. Il y a eu également un effort majeur et une grande réussite sur la stratégie vaccinale. Après une phase de tâtonnement initial, la Commission européenne s'est ressaisie et de façon absolument improvisée et majestueuse, elle s'est imposée comme négociateur commun pour l'achat groupé de vaccins au nom des 27 États membres, ce qui ne s'était jamais fait. Comme ça ne s'était jamais fait, ça a été grévé d'un certain nombre de petits accrocs et de petites insuffisances. Mais globalement, on a réussi en moins d'un an à vacciner 70% de la population européenne, certes avec des disparités majeures entre les pays qui restent à gommer, mais c'est quand même la preuve qu'on est plus fort ensemble et c'est certainement un des événements qui marquera l'histoire de l'Union européenne. Ce qu'il va falloir faire maintenant, et j'y viendrai dans la dernière partie de mon propos, c'est transformer en loi et en organisation formalisée ce que nous avons improvisé durant le cours de l'année 2021. La crise a également permis une prise de conscience s'agissant de notre incroyable dépendance vis-à-vis des pays tiers pour les médicaments. Guillaume est témoin du fait que cette préoccupation, on l'avait déjà avant la crise, mais bien évidemment, le fait que des unités de réanimation aient manqué de produits essentiels, le fait qu'on ait failli manquer de paracétamol, a quand même permis de réaliser que la souveraineté européenne en matière de médicaments devenait une urgence absolue et que, par ailleurs, on pouvait peut-être profiter de l'expérience des vaccins pour se constituer en une entité européenne capable de faciliter l'accès à des médicaments plus abordables et plus sûrs, c'est-à-dire d'essayer, sinon de généraliser, du moins de déployer la procédure d'achat groupé, et c'est manifestement quelque chose qui est en cours de réflexion. Ce sera forcément compliqué. Nous avons récemment débattu, Olivier et moi, dans un environnement d'industriels de la santé qui ont une volonté forte de participer aux actions, mais qui sont bien évidemment demandeurs d'accompagnement. Ils le sont d'autant plus que si on veut relocaliser la production de produits de santé sur le sol européen, ça sera avec eux et ça sera en leur imposant amicalement les contraintes environnementales et sociales qui sont le socle des valeurs de l'Union européenne. C'est quelque chose qui ne se fera pas en un jour, qui nécessitera des aides d'État, qui nécessitera de renforcer les partenariats publics-privés, mais c'est un défi que nous devrons relever et nous devrons finalement essayer d'aller jusqu'à ce cercle vertueux qui va de l'évaluation commune des médicaments avec la fameuse évaluation du service médical rendu en passant par la négociation commune des marchés et donc des prix, comme ça s'est déjà fait et comme ça doit se renforcer, jusqu'à la sécurisation des produits de santé en luttant contre les pénuries. Dans tous les domaines, évaluation, achat groupé, lutte contre les pénuries, il se trouve que nous avons positionné les médicaments du cancer comme étant des priorités et des urgences sanitaires, ce qui permet d'avoir une certaine cohérence dans l'approche du dispositif en prenant pour modèle les traitements du cancer, mais bien évidemment sans oublier les autres. Autre grande réussite de la crise sanitaire, le certificat COVID européen, le pass sanitaire que nous utilisons, que vous utilisez tous les jours, est dérivé d'une initiative du Parlement européen qui a fédéré les institutions européennes autour d'un certificat COVID unique, là où nous avions pendant des mois assisté avec consternation à des fermetures de frontières et à des non-alignements de prise des mesures d'un gouvernement à l'autre. Alors, l'actualité, c'est le règlement sur les menaces transfrontalières graves pour la santé. C'est un rapport dont j'ai l'honneur et le privilège d'être en charge au sein du Parlement européen et qui est rien moins qu'une réponse, ou du moins, si ce n'est pas une réponse complète à la crise sanitaire, c'est les conclusions que nous pouvons tirer des leçons que nous avons à nos dépens reçues pendant la crise. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'autant que ça devient souvent un peu techno, mais très schématiquement, il prône une meilleure coordination entre les États membres et il estime que ça passe par le renforcement des agences sanitaires, le CDC pour qu'on soit mieux capable de collecter les données de manière harmonieuse, sécurisée et comparable, qu'elle soit mieux capable de délivrer des recommandations aux professionnels de santé et au grand public, et qu'elle soit capable aussi d'évaluer l'impact sur les maladies non transmissibles comme le cancer ou les autres maladies chroniques qui au départ étaient une crise infectieuse. Ce règlement prône également la coopération entre les États membres auxquels on va demander de se préparer au niveau national en mettant en œuvre des dispositifs, des plans blancs des crises infectieuses et puis de profiter des régions transfrontalières pour faire des expérimentations de coopération. On y intégrera l'indépendance en matière de produits de santé que je vous ai détaillé tout à l'heure. On insistera lourdement sur la solidarité sanitaire, non seulement au sein des États membres, en faisant en sorte que la Bulgarie, la Roumanie, qui sont actuellement à des taux de vaccination faibles, arrivent à rejoindre et à être nivelés par le haut, par l'intermédiaire de recommandations, bien sûr, mais aussi de budget pour mettre à niveau leurs infrastructures. On n'oubliera pas, cher Guillaume, les régions ultramarines qui sont au cœur de nos préoccupations. Et on n'oubliera pas non plus les pays tiers, les pays à faible et bas revenus. L'Union européenne a été le premier exportateur vers l'Afrique, vers les pays tiers, en matière de vaccins. C'est totalement insuffisant actuellement, mais c'est une direction dans laquelle nous voulons emmener l'Union européenne, assortie d'un traité international sur les pandémies que nous portons également pour cette vision globale. Enfin, j'ai particulièrement demandé dans ce règlement que la gouvernance soit inclusive, qu'elle n'oublie pas la dimension régionale et qu'elle n'oublie pas non plus la dimension société civile et la place très importante que doivent prendre les organisations non gouvernementales. Avant cette crise, nous nous étions déjà emparés des sujets de santé, nous nous étions emparés du plan cancer européen que j'ai également le privilège de rapporter au sein du Parlement. Très rapidement, c'est un plan qui a comme fil conducteur les inégalités de santé, qui prend les grands domaines d'action dans le cancer que sont la prévention, le dépistage, le traitement et le suivi, qui à la fois identifie les domaines dans lesquels la masse critique européenne est absolument nécessaire pour faire ensemble. Je parle de la recherche et je parle des situations rares, des cancers rares, dont le meilleur modèle est le cancer des enfants. Mais elle a également la volonté de poursuivre l'impulsion vers l'Europe du médicament et d'améliorer l'accès à une santé de qualité pour tous, ce qui passe par des recommandations et des critères de qualité qui seront délivrés aux États membres, charge à eux de les appliquer et surtout charge à l'Union européenne de les inciter et de les aider à les appliquer. En résumé, on pourra toujours proposer que la Bulgarie ait des critères d'accréditation qui soient les mêmes que dans nos hôpitaux français. Si on n'aide pas, si on n'accompagne pas, si on ne fait pas des échanges, ça ne marchera pas. Juste pour info, je plaide également pour la création d'un institut européen du cancer virtuel qui permettrait de coordonner toutes ces actions, de faire un réseau entre les plans nationaux du cancer et donc d'inciter à une meilleure mise en œuvre. Nous travaillons également sur la santé au travail. Dans le cadre de la santé au travail, je suis un des rapporteurs de la révision sur la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes au travail. Très schématiquement, il s'agit d'accompagner la Commission dans sa volonté de mettre en place des valeurs limites d'exposition professionnelle. Il s'agit pour nous de faire en sorte que les mutagènes et cancérigènes comportent non seulement les reprotoxiques, mais aussi, et là je pense que ça va parler à nombre d'entre vous, les médicaments dangereux, en particulier ceux qui sont manipulés au cours des chimiothérapies pour cancer. Sachez qu'il y a encore des pays de l'Europe de l'Est qui ne disposent pas de reconstitution centralisée des cytostatiques. Dans ce volet, nous avons travaillé sur une directive amiante. Vous en avez peut-être entendu parler. Le Parlement européen, en lien très étroit avec la Commission, veut aller vers plus de protection des travailleurs, d'autant plus que le Green Deal va entraîner une vague de rénovation des bâtiments et que les opérations de désamiantage mettent les professionnels en danger. Nous voulons améliorer la recherche sur la gestion des déchets, nous voulons améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles, le suivi épidémiologique en essayant d'impulser une reconnaissance du mésothéliome comme ça se fait en France. Bref, nous voulons agir très fortement sur la santé au travail et ce sera probablement un des gros chantiers à venir puisqu'il va y avoir une directive santé au travail qui sera discutée. Très rapidement, parce que je vois que le temps passe, les perspectives d'avenir, en fait, je les ai déjà plus ou moins déflorées. La première, c'est l'autorité européenne de réponse et de préparation aux crises ERA. Ça sera une des priorités de la présidence française de l'Union européenne. C'est basé sur le BARDA américain et l'idée est de renforcer le cercle vertueux qui va de l'identification d'un besoin en médicaments en passant par la R&D, par la production sur le sol européen et en allant jusqu'à la sécurisation des produits et la lutte contre les pénuries. C'est quand même un budget de 6 milliards d'euros sur lequel nous discutons pied à pied actuellement avec la Commission qui avait un peu décidé de mettre un bureau supplémentaire dans un des couloirs de Bruxelles pour traiter tout ça. Et nous avons considéré qu'il fallait absolument que le Parlement, c'est-à-dire les citoyens, aient à y voir. On pourra peut-être y venir dans les questions si vous le voulez. Nous allons également travailler sur un EU Health Data Space, donc un hub européen de partage des données, en particulier médicales, mais pas que, dans lequel nous veillerons à ce que le règlement sur la protection des données soit appliqué de manière harmonieuse d'un pays à l'autre, puisque vous savez peut-être que les chercheurs se plaignent des différentes interprétations de ce RGPD, favoriser la collecte la plus exhaustive, la plus qualitative, la plus équitable possible des données, favoriser l'interopérabilité. Et ce n'est pas à vous que j'ai besoin de dire à quel point le partage des données est majeur en matière de recherche. Enfin, il y aura une conférence, il y a déjà une conférence sur l'avenir de l'Europe, dans laquelle j'espère bien que les citoyens vont là encore impulser pour que les sujets de santé soient au premier plan. Et je m'arrête là, je pourrais parler pendant des heures, mais d'abord, un, ma voix ne va pas tenir, et deux, j'avais promis de ne pas être longue et je n'ai pas tout à fait tenu ma promesse. Merci.
Ah non, mais Véronique, en dehors de votre problème de voix, que je peux parfaitement comprendre, sachez que c'est un vrai bonheur de vous écouter d'abord dérouler ce plan, Parce que l'une des problématiques qu'on a en tant que citoyen, c'est souvent de ne pas avoir de vision globale de ce que fait l'Europe et dans tous les domaines. Et donc, le fait d'avoir cette présentation que vous faites extrêmement structurée, qui permette de voir dans quelle direction les choses vont et la quantité de projets qui sont développés, c'est quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement important. Parce que ça donne une vision globale de la politique européenne, encore une fois, qu'on a très rarement. Et on a surtout l'impression, souvent, que l'Europe est une espèce de surstructure réglementaire et administrative. On oublie quand même, on fait mine d'oublier que les États membres gouvernent l'Europe. C'est quand même les chefs d'État européens qui prennent la décision. Donc, quand quelque chose ne se fait pas, ce n'est pas forcément à cause de l'Europe, c'est aussi à cause des chefs d'État et des politiques locales. Donc voilà, donc je crois que c'était extrêmement intéressant que vous nous donniez ce panorama. On va essayer de le reprendre par le menu, j'espère que dans le compte-rendu, et j'espère qu'on ne fera pas d'oubli, en tout cas, on vous le fera relire avec précaution. On va passer tout de suite aux questions, des questions courtes. Younes, la première question pour toi.
Oui, bonjour Madame la députée, et merci encore pour votre exposé. Je souscris complètement à ce que tu viens de dire également, Olivier, sur le fait que finalement, c'est aussi les États membres qui prennent la décision finale. J'avais un commentaire déjà sur le fait que ce que vous dites sur le partage des données de santé entre en écho avec la première table ronde qu'on a organisée mercredi sur les maladies rares, où il y avait une forte demande des acteurs pour avoir accès à ce partage de données à une échelle européenne. Donc il y a un intérêt tout particulier dans le champ des maladies rares, je pense. Et pour ma question, on a beaucoup parlé. Sur deux dernières tables rondes qu'on a faites, on a beaucoup parlé de la formation des professionnels de santé et de la nécessité dans leur formation, un, de pouvoir leur permettre d'être plus mobiles, parce que ce n'est pas toujours rendu possible par les universités, et deux, avoir une formation un petit peu plus harmonisée pour faciliter cette mobilité. Est-ce que c'est un sujet au sein du Parlement européen, ou alors l'agenda est beaucoup trop chargé pour qu'on puisse l'aborder au sein de l'instance? Merci beaucoup.
Je réponds maintenant?
Oui, je vous en prie, Véronique. Si c'est possible.
C'est évidemment un sujet, et c'est un sujet au sein du plan cancer. Je n'ai pas pu et pas voulu tout détailler. La formation est mise en exergue comme étant un moyen d'action majeur pour implémenter le plan cancer. Formation des professionnels, vous avez absolument raison, avec le triptyque programme de formation commun proposé par l'Union européenne en lien avec les sociétés savantes. Mobilité des étudiants en s'appuyant sur Erasmus. Et échange et coopération en s'appuyant sur les universités européennes. Mais n'oublions pas non plus le volet important, en tout cas à mes yeux, de la formation des aidants et de la formation des soignants, avec le volet patient-expert, health literacy, désolé pour l'anglicisme, mais le mot français est tellement horrible que je continue à dire health literacy, c'est-à-dire comment les patients s'emparent des sujets de santé pour se les approprier et devenir les acteurs de leur parcours de soins aux côtés des professionnels. Sachez que dans ce domaine, nous avons à apprendre des pays d'Europe du Nord qui sont plus avancés que nous dans le domaine. Et en matière de santé, il faut perdre un peu de l'arrogance française qui consiste à croire que On est très bon dans l'organisation des soins, mais en matière de prévention et en matière d'implication des patients dans les parcours de soins et des citoyens dans les parcours de santé, nous avons à apprendre de nos voisins européens. Donc, pour résumer, oui, bien sûr, la formation est mise en exergue, elle sera présente dans le plan cancer, qui est finalement un modèle de plan de santé publique européen et qui donc entraînera les institutions européennes à se préoccuper de formation.
Julia Herbderotti. Tétori, pardon.
Oui, bonjour. Merci, Madame la députée, pour votre intervention et aussi notamment pour rappeler l'importance de l'Europe dans le domaine de la santé. Donc, je travaille pour Next Step, donc une boîte de consulting en santé, et je travaille actuellement sur un article sur les convergences des politiques de santé pour les États membres. Et donc, du coup, j'aurais voulu vous poser cette question parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de confusion dans les médias français sur l'articulation entre ETS, la nouvelle Head of Agencies Group, FGA, et UNET-HTA. Parce qu'en fait, je n'ai pas réellement compris la relation que forment ces trois groupes. Donc, j'ai bien compris que EU-HTA, c'était justement ce réseau européen qui avait remporté cet appel d'offres de la Commission le 4 octobre pour mener des convergences justement en termes de politique de santé. Je n'ai pas bien compris en quoi la Head of Agencies Group, donc HGA, avait une relation justement avec cette EU-HTA. Voilà.
Bonjour Julia, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous perdez pas là-dedans. En tout cas, moi, j'ai résolu une bonne fois pour toutes de ne pas m'encombrer d'une forme de technocratie bien ancrée dans les institutions européennes et qui consiste à, superposer des dispositifs, des agences, des réseaux pour finalement parler de la même chose. Donc, concernant HTA, Health Technology Assessment, c'est le dispositif dont j'ai parlé par lequel les États membres pourraient peut-être un jour être capables d'harmoniser leur système d'évaluation de la valeur ajoutée d'un médicament. On simplifie à l'extrême, c'est une HAS européenne. Inutile de vous dire que les États membres ont quelques réticences, en particulier ceux qui sont dotés de systèmes d'évaluation robustes, ce qui est le cas de la France. Pour le moment, après 5 ans de blocage de cette évaluation, le Parlement européen et le Conseil ont réussi à mettre un pied dans la porte et à se mettre d'accord sur le fait que dans les 3 ans qui viennent, on aurait établi quelques dossiers d'évaluation commune en priorisant les cancers, les médicaments orphelins et les vaccins, mais que pour le moment, ces recommandations ne seraient pas contraignantes pour les États membres, c'est-à-dire qu'ils auraient le droit ou non de s'en servir. Autant vous dire qu'on est loin du but. Simplement, moi, parce que je suis une optimiste, je me dis que si le travail est bien fait, les États membres y verront rapidement leur intérêt, parce qu'ils s'éviteront beaucoup de dépenses d'énergie et d'argent à refaire 27 fois la même chose. Les industriels de la santé n'ont pas toujours envie de remplir 27 fois un CERFA, excusez-moi, c'est un peu schématisé, pour inscrire leurs médicaments. Donc, dans ce domaine de l'évaluation commune, j'ai bon espoir que le bon sens l'emporte sur la technocratie. Donc, je comprends tout l'intérêt de votre démarche, je ne sais pas répondre à votre question et je laisserai les technocrates s'en occuper. Moi, je sais où je veux aller dans cette première étape du cercle vertueux où on met en commun l'évaluation des médicaments, leur prix et leur sécurisation, que la Commission européenne se charge de mettre en place les dispositifs. Il fait très beau à Lyon, donc je vois que ma vidéo et la vôtre aussi, Olivier, fait apparaître le soleil, que les techniciens me disent s'il faut que je baisse le rideau ou pas.
Non, c'est très bien, ne vous en faites pas, il n'y a aucun problème. Mais je crois que une obligation temporelle, et donc je voudrais passer, si c'est possible, si vous nous donnez encore, je voudrais passer la parole à Jean-François Fusco et à Véronique Mazzi. Faites des questions courtes, Jean-François et Véronique, pour que on puisse libérer Véronique très rapidement. Donc, très courte, Jean-François. C'est pas facile.
C'est pas possible. Je regrette, mais je suis très heureux, Madame la députée, de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc, je représente une organisation européenne, une organisation professionnelle qui s'appelle ELS, European Association for Logistics and Transport in Healthcare. Nous représentons les approvisionneurs en produits de santé et de l'importation de la matière première jusqu'à la livraison dans les hôpitaux. Donc ceci, c'est pour vous. Et donc, je suis désolé, je voulais juste voir trois points avec vous. Le premier est pour faire assez simple, mais nous pourrons en reparler ensemble. Je voulais parler de la consultation qui est aujourd'hui disponible jusqu'au 21 décembre sur la modification de l'intégralité des textes du médicament à la lecture de 5 priorités, dont notamment faciliter l'accès des médicaments innovants, assurer une plus grande sûreté sur les approvisionnements, ce qui nous touche particulièrement, et aussi quelque part, je vais le dire avec un être attentif à un mieux-disant économique. Mais on ne va pas développer ça, j'ai bien compris Olivier, mais je voulais attirer votre attention sur cette consultation qui est essentielle puisque sur la base de ces 5 axes va être révisé l'ensemble de la législation pharmaceutique européenne. Donc, maintenant, je vais peut-être passer à mes questions. Pensez-vous que le passage pour le médicament vétérinaire de directive à règlement européen, comme aujourd'hui le sont les dispositifs médicaux, et donc un alignement de l'ensemble des pays, des États membres, sur la législation européenne est une bonne chose? Est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour le médicament à usage humain? Ça, c'est ma première question.
Jean-François, on va garder juste cette question. On
a vraiment... Non, j'en ai une autre. Excuse-moi, c'est l'esprit Nil. Tu l'as dit hier.
Donc, non, mais ça va.
Et puis, j'ai poursuivi parce que c'est très important. Donc, j'ai cette question-là et elle est assez simple en termes de réponse. D'autre part, vous avez cité ERA et nous avons fait une contribution aussi sur la consultation pour la création d'ERA, dans laquelle nous sommes positionnés en disant qu'il fallait rappeler le principe fondateur de l'Europe, qui était le principe de subsidiarité. Il y a aujourd'hui sur la création de l'ERA diverses influences qui peuvent aller d'un plein transfert de souveraineté à cette structure qui démarre début janvier sur l'ensemble des pays, d'autres qui ont une autre vision. Et nous, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que je voulais partager avec vous, c'est cette volonté du maintien de cette subsidiarité et de laisser faire au niveau des États membres, au niveau des régions, ce qu'ils peuvent bien faire et de ne pas transférer l'ensemble de ces décisions d'approvisionnement ou de les restreindre en cas à ce qu'on appelle les médicaments d'intérêt stratégique et de santé. Voilà, ce sont mes deux questions. J'ai bien compris, Olivier, mais je crois qu'elles sont assez importantes pour notre secteur.
Alors, Véronique, est-ce que vous voulez répondre tout de suite ou est-ce qu'on passe la parole aussi à Véronique Mazzi?
Non, je peux répondre tout de suite et je suis en train d'organiser mon agenda pour pouvoir rester un petit peu avec vous. Merci Jean-François. Alors, dans l'esprit Nil, je vais vous faire une réponse très globale on pourra ensuite développer à l'occasion de nouveaux échanges. Premièrement, bravo pour ce que vous faites. Deuxièmement, oui, la stratégie pharmaceutique est un texte qui est tout à fait important et merci également d'y avoir contribué. S'agissant des médicaments vétérinaires, la convergence des textes législatifs pour la santé vétérinaire et la santé humaine va dans le sens de santé globale, One Health, qui est un concept que je défends, quelles que soient ses fragilités. Et parmi les fragilités, vous ne l'avez pas évoqué, mais je pense que c'est ce que vous aviez en tête, il y a la problématique de l'antibiorésistance contre laquelle les institutions européennes sont tout à fait déterminées à plancher, surtout que c'est probablement la prochaine crise sanitaire qui nous guette. Concernant ERA, soyez rassurés, premièrement, il se trouve que par un artifice que je ne vous décrirai certainement pas, la position du Parlement sur ERA sera accroché au règlement sur les menaces transfrontalières pour la santé, autant dire que j'en suis le rapporteur. Donc, je suis tout à fait consciente des limites qu'il faut mettre à ERA. S'agissant de la subsidiarité en matière de médicaments essentiels, j'ai quand même l'impression qu'elle a un tout petit peu montré ses limites pendant la crise. Vous, je comprends bien que vous êtes sur une focale approvisionnement. ERA aura clairement des missions d'identification des médicaments nécessaires, de recherche et développement, d'accompagnement, de production, de sécurisation. S'agissant de l'approvisionnement, ça me paraît assez clair que ça relève beaucoup des États membres et de leur coopération entre eux. En tout cas, ça ne fait pas partie des missions d'ERA, je vous rassure.
Merci beaucoup, Véronique. Alors, dernière question, si vous nous le permettez, pour Véronique Mazzi. Et après, on vous libère. C'est très gentil à vous, en tout cas, d'avoir répondu. Véronique ?
Oui, bonjour, Madame la députée. Je suis vraiment ravie de vous entendre et je vous remercie pour votre contribution. C'était très intéressant. Alors, moi, je représente en fait le groupe Novartis, mais en France. J'ai eu l'occasion de travailler pendant très longtemps aussi au niveau européen, ce qui me fait bien connaître la réglementation européenne et ses filons. J'avais une question très simple et très, très pertinente, je pense, compte tenu du fait que nous sommes en négociation de PLFSS en France en ce moment. C'est comment voyez-vous, à court ou à moyen terme, la traduction législative de la nécessité de stockage européen de médicaments qu'on appelle les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur? Comment convaincre des États membres comme la France, mais comme d'autres aussi, pour ne pas conserver des stocks uniquement au plan national? Je vous remercie.
Alors, je vous remercie beaucoup. En première approche, votre logo laissait imaginer que vous étiez une représentante des associations de patients. Merci d'avoir décodé. Votre brushing ne permet pas forcément facilement de voir vous présenter l'industrie du médicament. Merci. Merci de votre transparence, en tout cas. La problématique du stockage, elle est double, chère madame. Elle va d'abord consister, elle est triple. Elle va d'abord consister pour l'Union européenne à assurer elle-même un certain nombre de réserves, comme elle a la compétence de le faire via des dispositifs déjà existants. Inciter les États membres à faire leur propre stock, ben c'est comme chaque fois qu'il faut inciter les États membres sur la base de recommandations qui ne sont pas toujours contraignantes. Ça dépendra de la bonne volonté commune et surtout de la compréhension qu'auront les États membres de leur intérêt à constituer ces stocks. Mais il y a une troisième partie qu'il faudra convaincre aussi, ce sont les industriels. Et il est prévu que la Commission européenne incite, probablement dans un dispositif qui intégrerait l'autorisation de mise sur marché, à étendre la durée des stocks au-delà des 3 mois actuels pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Donc effectivement, c'est un très gros sujet parce qu'il y a plusieurs parties prenantes et les industriels devront prendre leur part dans ce dispositif de sécurité sanitaire.
Merci beaucoup. Ouais, cette question-là elle est importante parce que dans le cadre d'ERA en particulier, il va falloir qu'on puisse mettre à disposition des quantités de spécialités pharmaceutiques rapidement, chose qui nous a manqué un petit peu au départ en termes de réactivité par rapport à la crise. Donc, je pense quand même que la décision de monter ERA est quelque chose de tout à fait positif. Et quand on écoute les différentes parties prenantes, en particulier l'OMS, raconter le nombre de crises sanitaires, c'est à peu près 300 alertes par mois. C'est une alerte mineure par mois et c'est une alerte majeure par an et une crise tous les 2 ans. Donc, il faut que le grand public se forme aussi à ces chiffres. L'état critique devient un état permanent et ce n'est pas simplement le fait de prendre des dispositions comme ça en se disant peut-être que ça arrivera un jour ou pas. On est vraiment dans des situations qui sont des situations qui deviennent de plus en plus complexes. Véronique, si vous voulez rester avec nous, bien entendu, vous êtes bienvenue. Si vous avez besoin de partir, vraiment merci de votre intervention.
Je vais rester pour écouter Guillaume.
Ah, bah écoutez, ça me fait grand plaisir. Et je passe tout de suite la parole à Guillaume alors.
Bah, merci beaucoup, Olivier. Je suis ravi de retrouver Nil pour la deuxième fois ce mois-ci et dans la belle et chaude nuit guyanaise. Je suis aussi et surtout également ravi de retrouver donc Madame la députée Véronique Trier-Lenoir. Et bravo, je voulais commencer par ça. Bravo pour tout ce travail et cet engagement au service de cette belle cause qu'est l'Europe de la santé. Et il me semble, pour en avoir discuté avec quelques-uns de vos collègues, que cet engagement est salué du côté de plusieurs bancs du Parlement européen. Donc voilà, je voulais m'y associer parce que le travail qui est fait est absolument, absolument remarquable. J'ai le souvenir d'il y a quelques mois maintenant où nous débattions ensemble avant la crise de certaines priorités que devait avoir l'Europe de la santé, parmi elles les priorités qui ont malheureusement fait l'actualité dans le cadre de la crise Covid. Donc c'était un débat qui n'est pas nouveau, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je trouvais intéressant de recontextualiser ce fait. On vous avait abordé, je vous remercie, le versant budgétaire de l'action de l'Union européenne, donc je n'aurais pas à m'y attarder plus que ça. Donc je voulais vraiment commencer avec, en guise de propos liminaire, essayer d'étendre un peu cette notion d'Europe de la santé à une notion d'influence européenne et française, en rappelant simplement quelques faits qui m'ont marqué ces derniers jours, sachant que les derniers jours ici sont aussi blindés d'une actualité débordante. Donc rappeler, et ça je sais que ça tient... Vous, Madame la députée, ça vous tient énormément à cœur, l'ouverture de l'Académie de l'OMS à Lyon, qui est un élément extrêmement important pour la future, on va dire, la future formation, mais aussi pour l'influence que peut avoir la France et sur le plan international et sur le plan européen. Également, bon, je ne veux pas vraiment faire on va dire des compliments à un seul parti politique, mais je pense qu'il faut se réjouir quand un Français prend la tête d'un parti politique européen, parce que c'est relativement rare. Et je sais que Stéphane Séjourné donc, a été élu à la présidence du groupe Renew. Le groupe Renew, il faut le rappeler, c'est le troisième groupe en termes de poids au niveau du Parlement européen, derrière le PPE, derrière le groupe SED. Et il a la particularité d'être un peu le groupe faiseur de roi. Donc c'est le groupe qui peut faire basculer une majorité. Donc avoir un Français à la tête de ce groupe, je pense que c'est également important. Je le dis parce que c'est Stéphane Séjourné, je l'aurais dit si c'était un député d'un autre bord. Et prendre enfin un exemple, qui est un exemple un peu plus local, et quand je dis local, je parle local, Amérique du Sud, de l'importance de l'action de la France et de l'action de l'Union européenne. Mais on en avait discuté, Olivier, il y a quelques jours lors du Café Nil. Je prenais l'exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'était passé au niveau de la frontière avec le Brésil, de l'Oyapock. Ben oui, de nombreux Brésiliens sont venus se faire vacciner en France, avec les vaccins qui étaient fournis en France. Donc là, on a un des exemples que peut avoir... les politiques européennes et françaises dans le cadre d'une diplomatie à l'échelle internationale. Donc voilà, je voulais vraiment recontextualiser ces éléments parce qu'on a tendance à parler de l'Europe de la santé de manière, on va dire, assez administrative, assez techno, comme le disait Véronique tout à l'heure. Mais il y a des déclinaisons opérationnelles qui sont réelles et on n'a pas besoin d'attendre les 10 prochaines années pour s'apercevoir déjà que cette Europe de la santé, que cette influence-là peut se reconnaître sur plusieurs continents. En guise de rappel, parce qu'on parle d'Europe de la santé, j'aime souvent rappeler la notion de compétence de l'Union, parce qu'il convient de vraiment comprendre où est-ce qu'on se situe en termes de compétences. Il y a un peu de juridique derrière ça, il y a les articles du fameux TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui donne en fait deux potentiels à l'Europe pour traiter de la santé. Un potentiel d'appui, donc de soutien des politiques nationales, et un potentiel un peu plus coercitif, qui est ce potentiel-là d'éditer des règlements, d'éditer des directives, pardon, pour pouvoir justement essayer de faire évoluer, essayer de faire converger les politiques de santé publique notamment. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a une définition large et précise au niveau de l'article 168 du TFUE où vous voyez les différentes déclinaisons et les différentes compétences de l'Union dans le secteur de la santé. En parallèle de cette crise Covid, donc, il y avait six grands points qui avaient été donnés par la Commission européenne, par sa présidente Ursula von der Leyen, sur la santé. C'était l'accès, ça vous l'avez dit tout à l'heure, l'accès à des traitements abordables, la définition d'une nouvelle réglementation des dispositifs médicaux et en particulier quelque chose d'intéressant qui était le transfert de portefeuille au sein de la Commission des dispositifs médicaux, à savoir passer d'un aspect plutôt marché intérieur à un aspect santé publique. Il y avait la e-santé, il y avait la lutte contre la résistance bactérienne, ça sera la pandémie de demain, ça on le sait. Il y avait la lutte contre le cancer, Madame la députée, je vous ai très engagée là-dessus également, et je garde le meilleur pour la fin parce qu'on est en plein dedans aujourd'hui. Il y avait également la promotion de la vaccination. Et Dieu sait que c'est une problématique à laquelle on est confronté, en particulier aujourd'hui en Guyane française. Donc voilà, cette pandémie-là, pour en faire un constat très rapide, parce qu'il faut qu'on se laisse un peu de temps pour discuter après, c'est quand même un virus qui a été à l'assaut de l'ADN de l'Union, rappelons la devise, unie dans la diversité. Au début de cette crise, on a quand même vu une Union un peu sidérée, rapidement sidérée. Ça a duré quelques semaines, mais sidérée quand même. Et elle a laissé place, en fait, à une capacité de leadership et d'investissement massif, à partir du mois d'avril 2020, quand on a commencé à voir vraiment la fin de la première vague épidémique, qui a laissé justement entrevoir cette capacité de leadership que pouvait avoir l'Union sans forcément avoir de grands moyens de contrainte, mais cette capacité de leadership en termes de santé publique. Donc la réflexion que je souhaiterais mener, mais qui a évidemment déjà été menée par les députés, mais c'est des éléments moi, qui me tiennent à cœur, c'est cette notion-là, on parle de paquet énergie, et j'aimerais parler de paquet santé en guise de traitement pour soigner cette Europe qui a été malade. Donc est-ce qu'on va, et ça c'est une question ouverte que je pose, est-ce qu'on va vers une modification des traités pour une compétence sanitaire élargie, donc une compétence sanitaire plus forte de coordination des enjeux de santé publique? Ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir, ça fait partie de ce dont discutent actuellement les chefs d'État et les chefs de gouvernement au Conseil. Vous parliez tout à l'heure, et là je vais m'y attarder, de la création d'un géant européen de la santé publique. Moi j'aimerais qu'on inclue dans cette notion de santé publique la notion également de géant diplomatique en termes de santé publique. On prenait tout à l'heure l'image de la Barda aux États-Unis. Barda que pourrait bien préfigurer en fait en termes d'influence le projet ERA. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, quand on s'intéresse à la santé, évidemment au niveau européen, on s'intéresse à la notion de compétence. Qu'est-ce qui relève de l'UE, qu'est-ce qui relève des États? Et quand on va creuser du côté de l'Union européenne, on va trouver évidemment les fameuses agences. Et les agences, quand on regarde quelles compétences en termes de santé elles exercent, on en trouve un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain. L'Agence européenne du médicament, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, l'Autorité européenne de sécurité des aliments et enfin le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Ça fait beaucoup. Je ne dis pas que chaque agence exerce sur un périmètre qu'elle ne devrait pas avoir, mais peut-être qu'il y a une réflexion à avoir dans les mois, dans les années qui viennent, à une convergence des compétences autour d'une seule et même structure qui, de fait, aurait un poids et diplomatique, et en termes de recommandations, et en termes de santé publique majeure. Je ne dis pas que ça doit être une structure qui serait capable de prendre le pas sur nos autorités de santé de régulation, mais au moins d'avoir ce géant-là européen. Pour l'instant, on a plusieurs agences, mais on n'a pas de géant européen qui est le poids de la Barda, qui est ce poids en termes de recommandations, et on en a quand même souffert au début de la crise du Covid. La question européenne nécessite évidemment également la question du financement. Donc ça, c'est un sujet qui est largement abordé dans la stratégie pharmaceutique. Je ne souhaite pas spécialement y revenir aujourd'hui, mais dans ce paquet santé, l'incitation à l'innovation, on ne doit pas en faire l'économie. C'est strictement impossible. C'est ce qui a été fait durant les premiers mois de la crise également, avec plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été injectés justement pour la production et la recherche. Mais on doit toujours garder dans notre spectre cette notion d'incitation financière pour aider les acteurs et publics et privés à s'implanter sur le territoire européen, à développer sur le territoire européen. Et on va évidemment toucher là cette notion qu'on avait déjà abordée, Madame la députée, cette notion de souveraineté sanitaire européenne, évidemment. Ça touche également au niveau de la politique scientifique, ce paquet santé, cette politique scientifique européenne. Tout à l'heure, Younes Telali vous posait une question sur la notion de mobilité. Bien, évidemment, quand on forme des scientifiques européens, on forme des scientifiques qui ont une réflexion, une dimension européenne dans leur exercice professionnel et dans la manière dont ils abordent les problématiques de santé publique européenne. Donc ça, c'est un élément qu'il faut évidemment prendre en compte. Des mesures économiques, à mon sens, doivent être prises et doivent être prévues dans les règlements afin de soutenir soutenir au mieux les équipes de recherche européennes, qu'elles soient au niveau de l'Europe géographique ou au niveau des régions ultra-périphériques, pour essayer d'anticiper les enjeux majeurs. L'enjeu de l'antibiorésistance, je ne vais pas dire qu'on va droit dans le mur, ce serait une expression qui serait un peu trop triviale, mais on sait très bien que la pandémie du siècle qui va arriver sera cette capacité qu'ont les agents infectieux à résister à de plus en plus de traitements. Donc il faudra travailler là-dessus. Et enfin, parce que je ne veux pas m'attarder et que le temps passe très très vite quand on parle, on a parlé des plans, les plans de la Commission et les plans qui sont soutenus par le trio européen, donc la Commission, le Parlement et le Conseil. Le plan cancer est évidemment extrêmement important. Le plan européen d'urgence sanitaire l'est également. C'est un plan en fait qui est une sorte de grand retour d'expérience et qui va permettre justement de construire les bases d'une capacité de réaction européenne qui, je l'espère, sera extrêmement forte vis-à-vis des crises que nous rencontrerons plus tard. Donc voilà, Olivier, je voulais vraiment faire très très court pour laisser encore une fois la place aux échanges avec les personnes qui nous écoutent et avec Madame la députée. Donc voilà, je me place à ta disposition et j'aimerais peut-être conclure avec une question que j'adresse directement à Madame la députée. On en a parlé tout à l'heure de contexte un peu de défiance chez certains pays de l'Union européenne. Quand on s'intéresse au droit européen, on s'intéresse à la primauté du droit de l'UE, on s'intéresse à de nombreuses notions qui font appel à des compétences juridiques. Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, on va dire, dans la notion notamment de compétences générales. Ça passera évidemment par des votes au Conseil, des votes qui probablement, s'il s'agit de modifier les traités, sont des votes qui se font à l'unanimité. Quid de certains pays qui sont actuellement en froid avec l'Union et avec les États qui sont leaders dans la mentalité européenne, exemple Pologne, exemple Hongrie. Est-ce que vous, au niveau de votre travail dans le Parlement européen, vous sentez que cette attitude-là de ces pays se ressent avec les députés qui représentent ces pays? Et comment envisagez-vous de construire cette Europe de la santé quand il y a des normes juridiques et des règlements en termes de fonctionnement du Conseil qui peuvent donner un droit de veto à un seul pays qui pourrait bloquer donc ces initiatives? Voilà, j'en ai terminé.
Véronique, la question est pour vous.
Merci beaucoup, Guillaume, pour ce tour d'horizon très, 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 très complémentaire et très, très pertinent. C'est à peine une question que Guillaume a posée. Il soulève le problème des compétences de l'Union européenne en matière de santé. Je me suis permis tout à l'heure d'écrire dans le chat que ça, ce serait un des sujets de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Et la même conférence pour l'avenir de l'Europe statuera aussi, je l'espère, sur l'unanimité et le droit de veto. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a là une échéance institutionnelle forte, dans laquelle tous les citoyens, y compris vous, y compris le think tank, peuvent contribuer, et je vous y incite fortement. S'agissant de l'état de droit, c'est, comme vous le savez, au cœur de la problématique actuelle de l'Europe, c'est-à-dire d'un côté, est-ce qu'on peut conserver au sein de l'Union des 27 des pays qui délibérément, officiellement, décide de ne pas se plier aux règles européennes. Et de l'autre côté, est-ce que le bon moyen est soit de les exclure, soit de les priver des fonds du plan de relance européen qui aiderait justement les citoyens à s'armer contre les futures crises, contre les pénuries de médicaments, contre l'inéquité d'accès. Donc, c'est extraordinairement complexe. Pour le moment, les négociations sont en cours. C'est un bras de fer entre l'Union européenne et les pays, on va dire, dissidents. En bon optimiste, j'espère clairement qu'on va arriver à tordre le bras à ces pays, mais s'ils ont la volonté finalement de quitter l'Union européenne avec toutes les difficultés insurmontables que ça posera pour eux, voilà, le sujet va être vraiment très, 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 très complexe. Je n'ai pas répondu à la question parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Stéphane Séjourné, que vous avez cité, est au cœur du dispositif de négociation avec le président de la République, avec tous les pro-européens. Et effectivement, c'est un sujet absolument majeur que les sujets de… C'était la Hongrie jusqu'ici, mais la Pologne est en train de poser un problème encore plus crucial. Ce n'est pas une réponse, hein, c'est juste un commentaire sur votre question qui, de toute façon, n'en était pas une.
Alors, en ce qui concerne la fusion et la mise en cohérence des agences, c'est vrai que c'est un problème qui est un problème majeur. On avait notre table ronde hier sur One Health et il s'avère qu'on ne peut plus fonctionner en silo comme ça. Il va falloir qu'on fonctionne en mission parce qu'autrement, si on n'a pas des modes de fonctionnement interagences qui fonctionnent, on va se retrouver dans la même problématique que la problématique française. Quand on voit qu'on a créé une CASA pour faire en sorte d'animer le système d'agences qui existe en France et qu'on a à peu près 1250 agences en France, dont une bonne trentaine dans le domaine de la santé, qu'elles ont toutes des prérogatives qui sont différentes et elles n'ont pas toutes les mêmes zones d'autorité d'ailleurs sur les structures et les administrations, on se retrouve à la tête d'un casse-tête qui est absolument général. Et si on appelle de nos voeux la création de l'agence de l'innovation en santé, il va être absolument nécessaire de regarder comment elle va s'inscrire dans le paysage des agences, en espérant qu'elle soit sous l'autorité directe du président de la République pour qu'on puisse avoir des plans qui soient des plans volontaires et qu'on puisse faire avancer les choses, plutôt que le système qui perdure à l'heure actuelle avec la Haute Autorité de Santé et avec l'agence de biomédecine, par exemple. Alors, on a l'habitude chez NIL de respecter les questions, bien sûr, c'est normal, mais aussi de respecter les horaires. Et donc, il y a une dernière question, puisque Jean-François et Véronique l'ont posée. La dernière question, elle est pour Younes.
Ça va aller très vite, parce que Guillaume a beaucoup mieux posé la question que je voulais poser. C'était justement sur les freins qu'on pouvait rencontrer au niveau d'autres États membres dans le déploiement d'une Europe de la santé, donc c'est tout bon.
Véronique, est-ce que je peux vous repasser la parole pour un mot de conclusion, en vous remerciant encore une fois de votre implication et du temps supplémentaire que vous venez de nous donner pour aller jusqu'au bout de cette table ronde.
Une conclusion, on ne va pas conclure maintenant parce qu'on est en pleine ébullition sur cette Europe de la santé. Donc, j'aurais envie de vous dire, continuons à y travailler, chacun dans nos secteurs. Continuons à échanger sur nos avancées ou nos déconvenues respectives. Je reste évidemment disponible pour en discuter toujours avec grand plaisir. Et continuez, vous faites un travail formidable.
Eh bien, écoutez, vraiment merci. Guillaume, merci. Va te coucher, va dormir un peu. Je sais que la journée va être difficile. Le contexte politique en Guyane n'est pas simple. Beaucoup de courage à tous les professionnels de santé. Beaucoup de courage à l'ARS et à la préfecture pour essayer de gérer un peu la situation qui est un peu explosive là-bas. Et Véronique, merci pour votre implication au niveau de l'Europe et au niveau de la santé. On sait qu'on a affaire à une vraie militante et donc ça nous rassure et ça nous conforte. Merci à tous et très très bonne journée.